Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes lundi 20 septembre 2021. Vous suivez la radio Nzamba Gati Kakawe. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Trois personnes ont été tuées la nuit d'hier en commune Gitega dans une explosion de grenades dans un bistrot. Une autre personne a été tuée la même nuit à son domicile par des inconnus. C'était à Tangara en province de Ngozi. Et puis le responsable communal du CNDD, FDD, s'arroge le droit de fermer les maisons d'habitation des enseignants de l'école fondamentale de Luvumera en commune de Nyanzara qui est dans la province de Makamba. Ces enseignants n'en reviennent pas. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, est en visite officielle à New York aux États-Unis. Il est parti sans son ministre, ayant la coopération dans ses attributions, ce qui surprend Frédéric Mbonimpa, ancien vice-président de la République du Burundi. Vous l'entendez. Voilà pour l'essentiel de ce journal à la présentation. Joséphine Jokimondimana, Madame, Messieurs, vous êtes tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Parlons insécurité pour commencer ce journal. Quatre personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi dans les provinces de Gitega et Ngozi. Trois ont été tués dans la province de Gitega dans une attaque à la grenade dans un bar à Kumasanganzira. La quatrième a été tuée à son domicile en commune de Tangara, province de Ngozi, par des malfaiteurs non encore connus. Les détails avec Blaise Nijimbere.
Les personnes cibles de cette attaque étaient dans une fête d'inauguration du bureau de la colline Rutegama. C'est sur la colline Gitega Ngozi, à quelques mètres du rond-point appelé Kumasanganzira, de la colline Rutegama en zone Gitega rurale. Selon les sources, l'engin a explosé vers 22h. Deux morts ont été enregistrés, dont un sur le chat, et un autre a succombé de ses blessures à son arrivée à l'hôpital régional de Gitega, où plusieurs blessés ont été évacués pour des soins selon les mêmes témoins.
J'étais dans ce bistrot. Il y avait beaucoup de discussions où des gens commençaient à se disputer comme ils étaient sous pression de la bière. Soudain, nous avons entendu une explosion de grenades. Il y a suivi beaucoup de pleurs et des cris de détresse. Il y a eu beaucoup de blessés qui ont été évacués vers différentes structures de soins de Gitega. La plupart de ceux qui étaient dans ce bistrot étaient des membres du parti CNDD-FDD. La police a essayé de fouiller dans les ménages voisins, mais aucun suspect n'a été arrêté.
La police est intervenue plus tard, entoura les ménages de tout près du lieu du crime, mais aucun suspect n'a été arrêté. Le chef de la colline Otegama, Mumbo Gwadesire, confirme les faits. Il promet de sensibiliser sa population pour le maintien de la sécurité. Et au nord, une autre personne a été tuée, fusillée sur la colline Gasekanya de la commune Tangara en province Ngozi vers 23h de ce dimanche. Les auteurs n'ont pas été identifiés. La radio Nzamba a contacté par téléphone le porte-parole du ministère de la Sécurité, Pierre Nkurukiye, pour avoir plus d'informations sans succès.
Dans le domaine de la santé, le principe de port obligatoire de masque instauré par la mairie de Bujumbura n'est pas respecté en mairie de Bujumbura dans les grands rassemblements malgré l'appel du maire de la ville la semaine dernière. Il avait annoncé des amendes allant jusqu'à 100 000 francs burundais aux récalcitrants. Le point avec Raoul Nyengurutse.
Ce dimanche, dans l'une des églises de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura, la radio Nzamba a constaté une forte concentration de fidèles dans cette église. Ils étaient assis côte à côte, sans distanciation sociale et ne portaient pas de masque. Le plus étonnant dans cette église, dite ERC, c'est que même le premier ministre Alain Guillaume Wunyoni, qui était présent, ne portait pas de masque, alors qu'il est censé donner le bon exemple pour faire valoir les nouvelles mesures contre le Covid-19. C'est le cas dans différentes autres églises de la capitale économique où s'observe le non-respect du port de masque malgré les nouvelles restrictions des administratifs de la mairie de Bujumbura contre le Covid. Le même constat a été fait la veille samedi, toujours à mairie de Bujumbura, au moment où le parti Uprona célébrait son 60e anniversaire. Personne ne portait un masque. D'autres informations en provenance de la capitale économique indiquent que les habitants qui prennent les bus transports en commun ne portent jamais de masque. Ils les portent dans leurs poches et leurs sacs et ne les sortent que quand ils voient des agents de la sécurité routière. Les mêmes sources expliquent que le port du masque n'est pas du tout respecté dans les rassemblements et que l'instauration des nouvelles mesures contre le Covid-19 est complètement ignorée. Pour rappel, le maire de la ville de Bujumbura avait prévenu que quiconque enfreindrait ces mesures se verrait sanctionné d'une amende d'au moins 100 000 francs burundais.
Merci Raoul, la situation est comme telle pendant que le Burundi traîne les pieds pour vacciner sa population. Certains simples citoyens qui se sont confiés à notre rédaction déplorent le fait que les autorités burundaises sont contre le vaccin anti-Covid-19 mais ne permettent pas que ceux qui le désirent aient la possibilité de le faire. Ces Burundais accusent les mêmes autorités de priver la population de son droit d'être protégée contre la pandémie de Covid-19 alors que certains de ces mêmes autorités vont se faire vacciner à l'étranger. Écoutez.
Le président de la République du Burundi s'est rendu aux États-Unis. C'est un pays qui exige le carton sanitaire. Et cela nous a montré qu'ils se sont fait vacciner clandestinement. Nous lui demandons alors d'ouvrir les portes afin que le vaccin soit répandu sur tout le territoire national et quiconque veut prendre son vaccin le prend individuellement et librement. Sinon, nous sommes bloqués par le manque de ce document sanitaire.
Les gens ont beaucoup de difficultés quand ils veulent voyager parce que beaucoup de pays exigent le pass sanitaire au moment où l'été politique burundaise n'admet pas que le vaccin soit donné à la population burundaise pour le moment.
Les dirigeants de notre pays n'ont aucun motif pour contrarier ce vaccin. Une chose très très étonnante, c'est que hier on a constaté que le président du Burundi, avec son entourage, a effectué une visite aux États-Unis d'Amérique, alors que ce pays exige des patients qui montrent qu'on aille sur le vaccin. Alors on conclut que les dirigeants de notre pays n'aimaient pas et se diriger vers l'étranger dans des situations très très désastreuses.
Le ministre de l'Intérieur avait dit que le vaccin sera disponible, mais que chaque personne qui le voudra se fera vacciner à sa volonté. Malheureusement, les vaccins ne sont pas là. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de disponibiliser le vaccin contre le Covid-19 pour que les gens qui veulent se faire vacciner le fassent sans délai, surtout en ce moment où les chiffres
Inzamba.
La suite de cette édition, c'est difficile de comprendre pourquoi le chef de l'État burundais ne s'est pas fait accompagner de son ministre de la coopération à New York à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la réaction de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Mbonimpa, qui déplore aussi l'absence des diplomates dans la délégation du président de la République. Pour lui, le ministre Albert Shingiro pourrait faciliter le déplacement du président Evariste Ndayishimiye dans les hautes sphères diplomatiques. On écoute Frédéric Mbonimpa.
D'abord, nous constatons certains changements par rapport au président Nkurunziza. Depuis 2015, il a décidé de ne plus participer à ce genre de rencontres. C'est un changement. Le deuxième changement, c'est que habituellement, la délégation qui allait à New York était une très forte délégation. Mais nous avons constaté que la délégation qui part aujourd'hui à New York est une petite délégation. Et dans ces personnes, je me suis rendu compte qu'il n'y a que quelques 3 fonctionnaires de l'État. Les autres personnalités sont chargées de leur mission particulière. Mon interrogation est au niveau de l'absence du ministre des Affaires étrangères, lui qui venait justement d'être affecté comme ministre à partir justement du poste d'ambassadeur de New York. 4 ans plus tard, il est habitué à savoir organiser des rencontres avec tel chef d'État, et surtout que celui qui l'a remplacé vienne à peine de partir pour remplacer en cette émission. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une question qui est posée. Je ne vois pas, et dans cette délégation, il n'y a pas quelqu'un qui aurait même un titre d'ambassadeur. Je crois que le déplacement d'un chef d'État, c'est pour qu'il puisse rencontrer d'autres et discuter des questions de relations entre États. C'est de cela que le Burundi a besoin et par conséquent nous avons besoin des personnes qui sont rodées en cette matière.
Cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies débute ce mardi à New York. Le prisonnier connu sous le nom de Tutu Lugendo, qui représentait des signes de troubles mentaux et qui venait de passer bientôt 2 semaines en détention préventive dans la prison de Bubanza, a été libéré ce lundi par le parquet de Bubanza. C'est un ouf de soulagement chez les autres prisonniers qui ne dormaient plus depuis son arrivée à la prison de Bubanza. Il provoquait beaucoup de casse sur son passage. Ces prisonniers demandent aux proches de sa famille d'aller le faire soigner dans les structures des soins des malades mentaux. Grogne chez les enseignants de l'école fondamentale Vumera dans la direction communale de l'éducation de Nyanzarak en province Makamba. Ils accusent le responsable du CNDD-FDD de les malmener en fermant les portes de leur maison d'habitation sans motif. Les détails avec Alexandre Niyungeko.
Selon des sources concordantes sur la colline Ruvumera où se situe l'école fondamentale, tout a commencé le mercredi de la semaine dernière, lorsqu'un enseignant de cette colline a été arrêté par un policier se trouvant sur la position de la zone Muyange. Cet enseignant a passé sa nuit au cachot de la police de cette même zone. Pendant son interrogatoire, on lui aurait demandé où se trouvent les autres enseignants de cette école. Ces enseignants affirment qu'ils sont persécutés par le responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline, connu sous le prénom de Juma. Les mêmes sources indiquent que ce responsable du CNDD-FDD a mis de nouveaux cadenas sur les portes où sont logés ces enseignants de l'école dès le début de la rentrée scolaire 2021-2022. Selon une source à la direction communale de l'éducation en commune, Nyanzarak, ces enseignants seraient persécutés car ils refusent les injonctions du responsable du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sur cette colline, qui les accuse de n'être ni des militants du CNDD-FDD ni des natifs de cette colline. Certains responsables administratifs de cette colline et du parti au pouvoir veulent que ces enseignants soient remplacés par des natifs de la colline. Le directeur communal de l'éducation en commune Nyanzarake aurait même effectué une descente pour tranquilliser ses enseignants dans cette colle. Les enseignants disent travailler dans des conditions très difficiles et craignent pour leur sécurité. La rédaction de la radio Inzamba a appelé sans succès le responsable du parti CNDD-FDD dans la zone de Ruvumera.
Et puis les militaires du contingent burundais de la MISAM dénoncent ce qu'ils qualifient de vol organisé. Ces derniers disent ne pas comprendre les cotisations qu'ils doivent donner pour assistance d'une femme de leur collègue qui serait en train d'être soignée en Inde. La demande actuelle de cotisation est la 3e depuis l'an 2016 pour la même individu. Pourtant, ce dernier bénéficierait de l'appui du commandement de l'armée. Plus de détails avec Beni Akselakan.
Nommé caporal-chef Vincent Daichimie, HR-099-62 de la matricule, c'est ce militaire pour qui le contingent burundais de la MISOM est exigé de contribuer plusieurs fois en guise de solidarité pour les soins de santé de sa femme en Inde. Ce caporal-chef Vincent Daichimie, du 59e bataillon à MISOM, il est natif de la province Ngozi au nord du pays, comme le souligne les sources de la radio Inzamba Agateka Kawe, au sein du contingent burundais. Les mêmes sources révèlent qu'en 2016, Vincent Daichimie était dans le 36e bataillon à Missoum. Les militaires de son contingent étaient sollicités de lui donner des cotisations pour qu'il paye les soins de santé pour sa femme hospitalisée en Inde. À cette époque, les militaires ont cru à un geste de solidarité et l'ont fait de bon gré. Vers la fin de l'an 2020, Vincent Daichimie a réintroduit une demande similaire à la première pour le même motif à 3 bataillons en attente pour le déploiement en Somalie. Il s'agit du 57e, 58e et 59e bataillon à Missoum. Chaque militaire de ces 3 bataillon a été obligé de payer une somme de 2000 francs burundais. Toujours selon des sources militaires, après le déploiement, il fait la même demande aux militaires de 3 bataillons. Chaque militaire a été obligé de payer entre 1 et 3 dollars américains. Il avançait toujours le motif de faire sortir sa femme de l'hôpital en Inde. Actuellement, un message de l'état-major général de l'armée est parvenu aux militaires en mission de maintien de la paix en Somalie, leur informant que chaque militaire en mission devra payer à la source une somme de 5000 francs burundais en guise de solidarité au caporal-chef Vincent Daichimie, pour qui sa femme serait hospitalisée en Inde. Un message qui a suscité inquiétude chez les militaires du contingent burundais qui dénoncent un vol organisé. Ces derniers appellent le commandant des forces de défense nationale du Burundi, le lieutenant-général Prime Niyongabo, de suspendre toute forme de cotisation obligatoire en faveur de ce militaire. Il demande aussi la mise sur pied d'une commission d'enquête pour statuer sur les factures de l'hôpital indien et les documents de voyage pour enquêter sur la véracité des déclarations de ce sommes militaires. Et s'il était prouvé que ces déclarations étaient fausses, qu'il rembourse toutes les sommes collectées qui s'élèvent à des milliards de francs burundais et que le règlement militaire soit appliqué en toute sa rigueur. La rédaction de la radio Inzamba, Agateka Kawe, n'a pas encore eu la version du général de brigade Téléphore Balandeleka, commandant du 13e contingent burundais, ni celle du colonel Floribert Viyeleke, porte-parole de l'armée burundaise, sur toutes les inquiétudes des militaires du contingent burundais de la MISOM.
Inzamba.
Une pénurie du carburant s'observe en province de Muyinga au nord-est du pays. Depuis le 7 septembre, il n'y a aucune goutte dans toutes les stations-service. Ce manque de carburant fait des conséquences néfastes sur le transport et sur la sécurité. C'est un reportage de Josine Kadze.
Cette pénurie de carburant de type essence et gazoil a commencé à se manifester depuis jeudi de la semaine passée, selon des sources concordantes à Muyinga. Les spéculateurs du marché noir n'hésitent pas de vendre une bouteille d'un litre et demi à 8000 francs burundais. La situation est comme telle, alors que le prix officiel d'un litre d'essence à Muyinga est de 2466 francs. Des conséquences liées à cette pénurie n'ont pas tardé à se manifester, indiquent les mêmes sources. Le prix du ticket de transport sur les différents axes a sensiblement grimpé. La majorité du prix du dit ticket varie entre 1000 et 3000 francs selon les itinéraires. Le prix du ticket de voyage sur l'axe Muyinga-Kovelo, qui était de 2000 francs avant la pénurie, est de 3000 francs présentement. Le ticket Muyinga-Gitega est passé de 8000 à 11000 francs, Muyinga-Ngozi de 5000 francs à 8000 francs, Muyinga-Changuzo de 6000 à 8000 francs. À côté de la cherté du ticket de transport, l'on remarque malheureusement des cas d'insécurité liés à la conservation de l'essence dans certaines habitations. À Chivali, en commune de Muyinga, une maison d'un trafiquant de l'essence a pris feu la nuit de ce 19 septembre à la suite de l'essence conservée dans cette maison, indique-t-on. Le ministère de l'Énergie et Mines a indiqué à la radio Inzamba qu'il va bientôt parler avec les transporteurs pour ce cas de pénurie observé à Muyinga, car le carburant est toujours disponible dans les stocks. Vous saurez que parmi les 6 stations-service œuvrant dans toute la province de Muyinga, 5 se trouvent au chef-lieu de la province et une à Kovelo, en commune Butihinda.
De Muyinga à Mwaro, la mesure prise par l'administrateur de la commune Nyabihanga qui interdit l'abattage de chèvres n'a pas été bien accueillie par la population de la zone Kivungere. Depuis environ 2 ans que la mesure est prise, les habitants ne mangent pas la viande de chèvre. Ils demandent à l'administrateur de revenir sur sa décision. Les détails avec Vanessa Muiteka.
La mesure a été prise par l'administrateur de la commune Nyabihanga, Adrien Nzugini Mahana, en 2019. Depuis lors, les consommateurs de la viande de chèvre ont du mal à s'en procurer. Pour en avoir, ils doivent effectuer de longs trajets, ce qu'ils trouvent très coûteux.
J'habite ici en zone Kibungere. Si quelqu'un a une envie de manger de la viande de chèvre, il doit faire un long trajet. Il doit aller à Giheta ou à Gitega, le chef-lieu de la province. C'est un trajet d'à peu près 15 kilomètres. Nous avons toute cette peine alors que nous avons nos chèvres, mais nous n'avons pas le droit de les abattre à cause de la mesure de l'administrateur.
Les habitants de la dite zone demandent à l'administrateur de revenir sur sa décision, sinon la mesure bafoue leurs droits.
Nous demandons que cette mesure soit suspendue, à part qu'elle n'est pas compréhensible et décourage les éleveurs du moment qu'ils n'ont le droit sur leur bétail. C'est vraiment concernant. C'est comme si le peuple était pris en otage.
La radio Inzamba Agatika Kawi a rejoint par téléphone Adrien Ndrini Mana, administrateur de la commune Nyabihanga, pour qu'il donne plus de lumière, mais comme nous sommes identifiés, il s'est refusé de tout commentaire.
Un mot de sport pour boucler ce journal. La 5e journée du championnat Primus League a été clôturée ce dimanche. La formation du Burundi Sport Dynamique occupe provisoirement la première place. Au basketball, 3 clubs sur 4 ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales au tournoi de préparation de la saison proprement dite. Les détails avec Jacob Sibomana.
Ulunani, Dynamo et Kern sont les clubs qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi. Ils ont obtenu leur billet pour les demi-finales ce dimanche dans des matchs avec beaucoup de suspense. Le match le plus attendu de ce dimanche a opposé Ulunani à New Star. La formation de Ulunani s'est imposée sur le fil sur un score de 69 points à 68. C'était le même cas entre Dynamo et les Hippos. Dans cette rencontre, Dynamo a battu son adversaire du jour par 70-69. Parmi les qualifiés, seul Kern n'a pas eu de difficultés énormes pour s'imposer devant les Méchas sur un score de 66-57 points. Au football, le championnat national a repris après quelques journées de pause suite au match de l'équipe nationale. Ainsi, Royal a battu Vitalo sur 1-0. Bouja City a battu Flambeau du Centre par 2-1. Les équipes de Kayanza, Top Junior et Kayanza United se sont séparées sur un score de 3-1 partout. Burundi Sport Dynamique a dominé Atletico New Oil sur un score de 3-1. Aigle Noir a battu Musongati par 2-1. Même score entre Lukinzo et Flambeau de l'Est en faveur de cette formation de l'Est du Burundi. Les matchs que devraient disputer les clubs de Message Ngozi et Umamuru qui participaient dans des compétitions africaines ont été reportés. Ses représentants du Burundi ont été tous éliminés. Umamuru par Diable Noir de Brazzaville sur un score d'un but à zéro. Messager a quant à lui été battu par Union Sportive de la Gendarmerie du Niger sur le même score d'un but à zéro. L'élimination de ses représentants du Burundi montre que le championnat Primus League est d'un niveau bas. Le championnat d'Afrique de volleyball féminin qui se déroula à Kigali s'est clôturé ce dimanche. Le Cameroun qui s'est imposé devant le Kenya en finale sur un score de 3-7-1 est rentré avec le titre de cette année. La troisième place est revenue au Maroc qui a battu le Nigeria par 3-7-0.
Merci Jacob Siomana et c'est par là que se ferme ce journal. Merci de l'avoir écouté. Joséphine Jones-Mondimana vous l'a présenté. Au revoir et à la prochaine.